blanche.
Avec Olivier et Solène, on se demandait comment faire pour faire revenir nos invités mythiques du Next 40 dans les studios après les avoir déjà eus. On avait deux options. La première, c'était de réinventer un nouveau format juste pour eux, ce qui ne manquera pas d'arriver. L'autre option, mais ça demandait un peu de travail de leur part, c'était d'attendre qu'ils sortent un ouvrage. C'est le cas de mon invité que j'ai le plaisir de retrouver, Alexandre Pachulski. Bonjour.
Bonjour Thomas.
Tu es du coup l'auteur, en plus d'être entrepreneur de Talentsoft, de Startup Story. Alors t'es un auteur prolixe, c'est pas ton premier ouvrage. Je me rappelle notamment de l'IA expliquée à travers les films. Pardonne-moi pour le titre exact. Mais donc Startup Story, le guide pop culture de l'entrepreneuriat, où finalement on va apprendre à choisir son équipe façon Ocean's Eleven, apprendre pour modèle Björk ou Queen pour définir son produit et le créer, ou encore s'inspirer de Top Gun pour sa culture d'entreprise. Donc, t'es allé chercher dans les séries, dans le cinéma, on a bien compris que c'était des gros centres d'intérêt, mais aussi dans l'univers musical, pour expliquer la vie et peut-être aussi la réussite, c'est l'idée, j'imagine, d'une entreprise à travers ces exemples, du coup, qui nous parlent tous et qui nous permettent peut-être de mieux mémoriser une fois dans l'action. Donc, c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de faire un résumé relativement complet de ce fabuleux ouvrage. Je te propose d'en discuter dans un instant.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Ils sont 40. 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflys OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On résume, 15 années de croissance, 600 collaborateurs, plus de 2000 clients basés dans 130 pays, 11 millions d'utilisateurs, près de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Alors ça, c'est des chiffres, il n'y a pas que les chiffres qui comptent, mais ça permet de légitimer, on espère, les conseils que tu peux proposer dans Startup Story. Ce que je te propose, un peu à l'image de l'ouvrage, c'est qu'on commence par les débuts qu'on a tous vécu et qu'on aille presque jusqu'à la session. Que tout le monde ne vit pas, que tout le monde ne vivra pas, mais du coup balayer comme ça toute la vie d'un entrepreneur à travers son entreprise. Donc si on démarre par le début, le démarrage, il y a plusieurs chapitres. Moi, je voudrais te proposer de commencer avec la notion d'opportunité et comment on apprend à les reconnaître. Pour ça, tu es allé chercher chez Lelouch, pas dans un, pas dans deux films, mais en fait dans tout Lelouch.
Ouais, j'ai commencé, outre le fait que le cinéma de Claude Lelouch ait beaucoup de ramifications aussi familiales, je trouvais intéressant dans son cinéma le fait de suivre la vie des gens et comment la vie des uns va croiser celle des autres. L'opportunité, c'est la définition même, c'est un croisement. C'est vraiment, pour moi, je vois ça comme des panneaux indicateurs, avec cette question qui va se poser, parce que c'est trop facile de savoir qu'il n'y a pas marqué « opportunité » dessus. C'est un signal qui nous est envoyé. Il va falloir apprendre à décoder ce signal et se dire, tiens, c'est un appel ou tiens, c'est du bruit. Et il y a évidemment, alors là, je vais déjà décevoir les potentiels lecteurs du livre, il n'y a pas de recette magique. Par contre, chacun dispose de sa propre recette et il faut apprendre à l'appliquer au bon moment. En ce qui me concerne, Talentsoft, c'est né d'une demande qui m'a d'abord ennuyé. Donc un signal d'un ancien client de ma première entreprise qui me demande d'aider sa DRH sur les entretiens annuels d'évaluation au moment où moi j'ai une boîte de conseil RH où je ne fais pas du tout de logiciel. Donc je lui dis non une première fois en me disant c'est très cool. Il se souvenait que j'avais fait de l'informatique, je lui dis c'est pas mon job. La deuxième fois, je lui ai dit non, c'est très sympa, mais c'est toujours pas mon job.
Là, c'est une opportunité qui vient quand même frapper plusieurs fois à la porte.
Oui, parce qu'il insiste. Et alors, amusant, parce que difficile de le voir comme une opportunité au démarrage. La troisième fois, il me tord le bras, en fait, et il me dit bon, bah, de toute façon, j'ai dit au comité de direction que tu le ferais, donc t'as plus le choix, c'est ça, ou en gros, on bosse plus ensemble. Et vu que j'avais besoin de bosser avec lui, j'ai dit bon, bah, fine. Alors là, typiquement, je peux pas me vanter d'avoir perçu une opportunité, puisque j'étais un peu forcé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, bah, puisque l'univers frappe plusieurs fois à ma porte, il y a sûrement quelque chose derrière ça. Et là, je commence à me poser la question, mais alors, quel est le problème et autres? Et là, c'est à ce moment-là où le louche intervient et Jean-Stéphane Arcis, qui est un de mes anciens clients, recroise mon chemin, on déjeune ensemble, je lui raconte. Lui-même recroise le chemin d'un collègue d'il y a 15 ans avec lequel il commençait à penser, à réfléchir à une entreprise. Et voilà, donc en fait, une opportunité, c'est pas écrit dessus, c'est simplement qu'à un moment donné, quand il y a une résonance avec un moment de sa vie, quand on entend cette petite musique intérieure qui te dit « tu devrais écouter quand même », pas trop la tête finalement, qui souvent dit non, qui souvent a peur, qui souvent
c'est
se
pas
dit
dans
c'est
mon
pas
schéma.
Le moment,
ouais,
c'est
ouais.
pas moi. C'est... Mais en fait, plutôt plus du côté du cœur et de se dire « il y a un appel, il y a quelque chose ». Voilà, je crois que c'est extrêmement important.
Souvent, on parle d'une forme d'intuition, mais est-ce que cette intuition, en fait, elle n'est pas d'une curiosité permanente tout au long d'une vie qui fait qu'à un moment, tu fais des ramifications qui te permettent de dire, bah là, en fait, je vois, je saisis et je vois qu'est-ce qu'on peut faire de ce sujet qui m'est tendu, qui n'est pas la réponse finale. Et j'imagine que dans cette demande de ton premier client, il n'y avait pas tout le modèle Talentsoft.
Alors, très loin de là, hein. Évidemment, la version bêta ne ressemblait pas à grand-chose à ce qu'on a fait même 2 ans après. Alors, ton point est juste. De toute façon, il faut être ouvert aux signaux. La difficulté, encore une fois, est de savoir quels sont ceux qui nous concernent. Et donc, là où effectivement il faut être curieux de tout, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce qui est demandé. Moi, je reviens souvent à la question de qu'est-ce qui me concerne et qu'est-ce qui ne me concerne pas. Je reviens souvent là-dessus aussi chez les incubateurs, dans les écoles. Moi, le côté, tiens, je perçois quelque chose, ça ne me touche pas, mais tiens, il y a de l'argent à se faire, je vais chercher un ou deux associés, diplômés si possible, et hop, j'applique la bonne recette de l'entrepreneuriat et j'y vais. Moi, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne.
Et c'est pas dit que ça marche non plus.
Je pense que d'ailleurs, ça peut pas marcher dans la durée si on n'est pas un peu concerné par le problème qu'on adresse. De l'autre côté, la vie, c'est tu te balades dans une carte du monde mouvante et tu es appelé par les choses qui te concernent. Avec ce risque, c'est que tu sois enfermé dans des cercles et dont tu ne sors jamais, puisque finalement, tu es coincé, tu regardes le monde au travers de ce que tu sais déjà, donc c'est dur d'apprendre. Donc, il faut suffisamment de connaissance de soi pour se dire, là, cette chose-là me touche, mais il faut être aussi capable de s'ouvrir à quelque chose qui ne nous touche pas immédiatement, mais qui peut nous concerner. Donc, de toute façon, la seule recette que je peux donner, c'est apprendre à se connaître chaque jour un peu plus, parce que, comme Gnocchi, c'est Othon, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais comme disaient les Grecs, la seule chose, c'est que l'école ayant du mal à nous apprendre à ça, il faut faire une sorte de... Il y a une hygiène personnelle. En tout cas, si on a l'intention de devenir entrepreneur, c'est un préalable indispensable.
Se connaître, ça permet aussi de savoir ce qu'on a à dire.
Oui, en l'occurrence, quand cette opportunité se présente, qu'est-ce qu'il me dit ce CEO? Il me dit finalement, on ne connaît pas les gens. Donc lui, il voit les entretiens annuels qui se font, il se dit, tiens, il faudra le faire un peu mieux parce que finalement, on n'en tire pas grand-chose. Mais les entretiens annuels, c'était une modalité. C'est pour ça qu'assez rapidement, on s'en est détaché. Et vraiment, le cœur de Talentsoft a été, en un mot, d'aider les gens qui travaillent au sein des entreprises à mieux connaître les autres gens. Point.
Tu parlais de moments, tu parlais d'une multitude d'informations. Il y a un autre chapitre qui est consacré à la clarification des priorités. Et pour ça, tu vas puiser dans Radiohead.
Oui, parce que Radiohead, alors tu vois, parfaite transition, s'il y a bien un groupe curieux, je pense qu'on peut aimer ou pas Radiohead, mais on ne peut pas enlever à chacun de ses membres d'être d'une curiosité insatiable. C'est des fous d'ailleurs, des obsessionnels. Quand à un moment donné, ils découvrent quelque chose, ils font 3 albums sur le sujet avant de virer complètement à 180 degrés de partir ailleurs. C'est important parce que donc ils sont créés, Pablo Honey, c'est 93. Le premier album de Thom Yorke solo, c'est 2006. Donc, entre, ils font OK Computer, Amnésiaque, donc des chefs-d'œuvre. Mais à un moment donné, il a envie d'explorer autre chose et il n'est pas exactement en phase avec ses alcoolytes. Il n'y a pas de rupture, mais il a besoin d'aller respirer.
Il y a une envie
et une envie, comme dans certains films ou séries, un peu de déambuler, d'errer, de s'ouvrir. Je pense qu'on va beaucoup répéter ça, mais s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et c'est pas facile quand on a deux associés de se dire, à ce moment-là de ma vie, j'ai envie de m'intéresser, comme je l'ai fait en 2018, à l'éducation. S'intéresser à d'autres domaines, d'écrire dessus, de donner des conférences dessus. J'ai été me former sur des choses qui n'avaient rien à voir avec le SIRH. Comment t'expliques ça à un moment donné à tes collaboratrices, collaborateurs? Je vais me faire former sur un truc qui n'a rien à voir ni de près ni loin. Bah, les gens disent bah, bonnes vacances. Non, je bosse là. C'est une question de priorité. C'est que
tu priorité dois... personnelle.
Mais tu sais, moi, le pro, perso, à un moment.
C'est mêlé. C'est une vie.
En tout cas, quand tu es entrepreneur, des choses t'attirent. Et je doute fort du fait que ça ne puisse t'attirer que professionnellement. Il y a toujours une résonance personnelle. Je pense que quand t'es, entre guillemets, les bons, et avec des énormes guillemets, hein, parce qu'on pourrait faire une émission entière, c'est quoi être bon. Mais en tout cas, c'est pour moi une forme d'alignement. C'est quand tu vas agir en allant puiser sur des choses profondes, enracinées, incarnées, c'est là où tu déploies 100% de ton énergie. Donc la priorité... elle évolue. Hein. Si quiconque nous écoute est en couple, je pense que tout le monde le comprend assez bien. La cause numéro une des divorces, c'est des priorités qui changent. Je vois pas bien pourquoi en 15 ans avec deux associés, on n'aurait pas ce problème-là. Donc à un moment donné, la clé, bah, comme dans les couples, c'est la communication et l'écoute. Tu dis la vérité, tu dis à ce moment de ma vie, j'ai envie, j'ai besoin d'autre chose. Par contre, j'ai pas envie de partir, t'es en soft. Donne-moi un peu d'air. Et fais-moi confiance, et je vais voir ce que je ramène avec ça. Et quand on se fait suffisamment confiance, ça peut fonctionner, et en tout cas, ça a bien fonctionné pour nous trois.
Ça me fait penser à Mathieu Nebra et Pierre Dubuc d'Open Classroom qui racontent ça, en fait, que régulièrement dans leur vie d'association, ils ont d'ailleurs changé de poste au sein de l'entreprise, entre le produit, et puis on intervertit, le marketing, etc. Sur le papier, c'est très beau. On connaît plein d'entrepreneurs en association, et à un moment, ça peut faire des grosses frictions aussi, justement, entre les priorités personnelles et un focus sur là où on a dit qu'on irait.
On a connu ça aussi, la perte d'un être cher qui te chamboule complètement, un mariage qui est plus joyeux, qui te chamboule aussi parce que...
Chamboule ton agenda aussi.
Voilà, ton minima, agenda, ouais. Et puis à un moment donné, tes priorités vraiment très, très, très personnelles et intimes. Donc, c'est extrêmement compliqué. Tu vois, on a changé de job finalement pas mal avec Joël. Il avait la R&D, j'avais le produit. Puis après, on s'est associés tous les deux et on a regroupé le produit et la R&D. Puis après, on a rechangé. Tant que tu te parles, encore une fois, ce qui revient à la communication, ça va bien. La problématique, c'est que quand tu es 600, comment, est-ce que tout le monde est obligé de s'adapter à ça? Est-ce que c'est propice? Est-ce que tu fais un caprice? Alors, tu fais des efforts. Parce
ça,
que
tu le sais après, si c'est un caprice, non?
Oui et non. Encore une fois, moi, j'ai mis le défaut, mais j'ai le souci d'essayer d'être honnête avec moi-même et avec les autres. Quand tu sais que quelque chose est important pour toi, je ne suis pas sûr que ce soit un caprice. Là où ça devient un caprice, c'est quand ça devient négatif pour les autres. Donc, tu es toujours dans une forme de négociation entre ce qui compte pour toi et ce dont les autres ont besoin. Et évidemment que tu commets plein d'erreurs. Évidemment qu'il y a des consensus imparfaits, évidemment tout ça. Mais tant que tu le dis aux autres, et en tout cas, je l'ai toujours fait en disant « Moi, j'en ai assez de ça. J'ai besoin de m'aérer, je vais tenter ça. » Mais il faut avoir en tout cas l'honnêteté et l'écoute de la part des autres. Et il faut, toi, que tu écoutes les autres qui, quand ils te disent « C'est super, Alex, mais en l'occurrence, ça ne marche pas. » Le caprice, c'est d'insister. Si tu dis « désolé, on va faire encore autre chose. » Tu ne peux pas changer tous les trois mois, ce n'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge aussi. En réalité, tu ne peux pas non plus faire 15 ans la même chose au même endroit. C'est un autre mensonge. Donc, il faut accepter la flexibilité, l'adaptabilité et que tout soit toujours mouvant. Oui, c'est plus compliqué, mais l'inverse est impossible.
Ou à un moment, accepter de se dire qu'on n'est plus au bon endroit et qu'on ira peut-être faire autre chose. C'est valable pour l'entrepreneur comme pour un collaborateur. Mais ça,
ça fait peur.
On y reviendra, je crois, bien sûr.
Ça fait peur. Parce que tu te dis, en gros... Je suis dans la merde là.
Ouais.
Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Mais ça ne change pas la vérité du truc.
Tu évoques aussi la notion, c'est tout un chapitre, sur le fait de ne pas lutter contre sa nature. Et alors là, pareil, on va aller puiser dans une sacrée quête, celle du Seigneur des Anneaux.
Oui, j'ai adoré ce film. D'ailleurs, c'est énormément de personnes qui l'ont repris en conférence. Hein, là aussi, je n'ai pas inventé. C'est la notion de communauté, on l'a bien comprise là. C'est-à-dire que c'est pas la personne de petite taille, elle est moins, c'est moins spectaculaire que Gandalf. Donc c'est moins bien. On va valoriser le magicien parce qu'il envoie des éclairs. Sauf qu'il y a des moments qui sont très bien montrés dans le film. C'est pas Gandalf qui fait la blague, t'as besoin de la personne de petite taille. Même chose.
Et même de son copain.
Exactement. Donc en fait, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il y a des gens qui sont à un instant donné appelés à être ceux qui vont régler la situation. Et je trouve que la période que l'on vit actuellement érige vraiment ça en vérité absolue. On a besoin de tout le monde. Et tout le monde ne va pas se révéler au même moment. Un bon manager, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va se dire, voilà ma communauté, maintenant, compte tenu de ce qu'on vit, un, comment j'essaie de l'analyser de la façon la plus pertinente possible, et deux, quelle réponse j'apporte en allant chercher des gens qui n'étaient pas les héros d'hier, qui vont être les héros d'aujourd'hui, qui ne seront pas les héros de demain. Alors, du point de vue égotique, il faut l'accepter, mais la vérité, c'est que tout le monde n'est pas utile tout le temps au même niveau d'intensité.
Alors justement, quand on a fait une certitude, même si les certitudes sont amenées à évoluer jusqu'à ce qu'elles soient contredites, c'est bien, tu en as fait un chapitre, c'est bien qu'il y a des moments où ça a dû frotter sur des sujets comme ça.
Évidemment, d'abord parce qu'on est en France et que d'abord les entreprises qu'on adresse sont majoritairement éduquées autour de la notion de top talents, de high performers. Toutes les grilles d'analyse des talents qu'on nous demande, c'est quelles sont les personnes en haut à droite et on va les, pour le coup, les déifier, formation, rémunération et tout. Et celles qui sont en bas à gauche, caca, bon bah on va essayer d'en virer 10%. Bon, j'exagère, mais c'est pas très loin de ça, quand on trouve en tout cas le marché en 2007.
Ah, c'est un peu le sujet que tu évoques dans un autre chapitre sur les ressources humaines, mais avec cette notion de performer, où tu vas puiser chez Sting, dans les impressionnistes aussi.
Mais oui, parce que pour le coup, les impressionnistes sont tous les reclus du mouvement de la peinture parce qu'ils ne correspondent pas au canon de l'époque. Donc, on les refoule des expositions. Et puisqu'ils sont refoulés mais ont envie de s'exprimer, ils se regroupent. Ça crée l'impressionnisme et avec l'influence considérable qu'il y a derrière. Donc, ça veut dire que ceux qui sont en bas à gauche du cadran, qui ne rentrent pas dans les cases en gros, sont peut-être les stars de demain. L'enjeu... Je reviens là-dessus, je ne crois pas à la notion de talent intrinsèque. Il n'y a que la rencontre entre quelqu'un, une volonté, un potentiel et une situation qui va exiger ce potentiel et cette volonté.
Alors, je pousse un peu, mais tes fameux impressionnistes, enfin, c'est nos impressionnistes à tous, mais est-ce que ce n'est pas les entrepreneurs qui vont creuser un chemin, assumer et créer quelque chose? Parce que quand tu montes une équipe, j'imagine que tu n'embauches pas quelqu'un à un instant T pour qu'il soit la bonne personne dans 5 ans.
Non, mais par contre, alors ça reviendra aussi à un autre chapitre autour de recruter des gens et pas des CV. Évidemment que tu essayes de répondre aux problématiques du moment, mais il y a deux façons d'y répondre. Tu sais exactement de quoi tu as besoin et tu vas chercher des exécutants pour qu'ils fassent ce que tu leur dis de faire compte tenu de ta vision du monde. Et il y a « j'ai un problème et je vais recruter des gens qui sont, je reviens sur le mot, concernés par ce problème, et dont je pense qu'ils ont quelque chose à apporter, même si je ne comprends pas bien quoi exactement. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que si tu ne recrutes que des gens dont tu comprends ce qu'ils peuvent apporter, bah en fait, tu es limité par ta compréhension. C'est Steve Jobs qui disait, bon, qui n'était pas exemple des faux managériaux, mais qui disait, si tu recrutes des gens plus intelligents que toi, c'est précisément pour qu'ils te disent quoi faire. Donc, oui, Thomas, en fait, on va parler d'équilibre tout le temps. Où est l'équilibre entre recruter des gens qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais tu dis « Ah, c'est génial, je comprends rien de ce qu'ils font, ça doit être super. » Bah non, quand même pas. Mais recruter que des gens dont tu comprends ce qu'ils font, ça ne va pas marcher non plus. Donc, voilà.
Tu parlais de recruter des gens concernés sur cette partie, et tu l'as très bien dit, recruter des gens, pas des CV. Là, tu vas puiser dans les incorruptibles.
Oui, j'adore la séquence. Bon, comme toutes les séquences où on construit des castings, cette séquence du film où on voit Elliot Ness bâtir son équipe, il commence par Sean Connery, donc il est quand même un flic qui va être à la retraite très prochainement, qui vont ensuite chercher un comptable, alors là, pour le coup, qui n'a jamais manié une arme à feu de sa vie, un flic d'origine italienne ou irlandaise, je ne sais plus d'ailleurs.
Andy Garcia.
Ouais, Andy Garcia, assez sanguin. Donc, c'est des gens qui ont pas grand-chose finalement à voir entre eux et qui sur le papier...
Ce n'est pas des copycats d'Eliot Ness, en tout cas.
Pas du tout.
Voilà.
Et ce ne sont pas, a priori, des gens, sans jeu de mots, les mieux armés pour répondre à la mission d'Eliot Ness. Mais un, ils sont tous touchés d'une façon ou d'une autre par la notion de corruption et la valeur honnêteté.
Et d'intégrité.
Pour des raisons différentes. Et ils sont prêts à un moment, c'est suffisamment important à ce moment de leur vie, à ce croisement de leur vie, dont on revient sur Lelouch, ce croisement, pour qu'ils mettent leur énergie en commun pour combattre Al Capone.
On parle produit.
Avec plaisir.
Et peut-être du film The Social Network, pour le chapitre « Design le produit dont tu as besoin ».
Ouais, alors bon, on voit très bien, pour ceux qui connaissent un peu la vie de Zuckerberg, là aussi, c'est comme Steve Jobs, je vais citer Facebook, pas non plus en modèle absolu de tout, mais en tout cas le film est intéressant.
Ça permet d'avoir des références communes.
Bon, et puis, de toute façon, quoi qu'on en pense, quand tu as plus d'un milliard d'utilisateurs, ça mérite qu'on y passe quelques minutes.
On s'intéresse aux produits, oui.
En fait, à la base, Zuckerberg, ce qui est très très bien montré dans le film, c'est un peu un nerd, un gars refoulé qui, pour draguer les filles d'Harvard et un peu s'incruster aux soirées, va finalement créer un réseau social. Donc lui, il se fait quoi ? Il essaye de résoudre son problème avec une innovation. Et cette innovation deviendra l'outil qu'on connaît. Moi, je crois beaucoup à ça. Quand je crée Talentsoft, encore une fois, moi, j'ai beau être diplômé, j'ai toujours été autodidacte. C'est-à-dire, je sors d'un doctorat, je me retrouve à la tête d'une boîte de conseil RH, je commence à comprendre ce que je fais à la tête d'une boîte de conseil RH, je fais un éditeur logiciel. Donc, là-dessus, je me dis juste une chose. Pendant 7 ans, j'ai fréquenté les RH et je vois quand même assez bien de quoi ils souffrent. Je me retrouve à faire un logiciel. Qu'est-ce que je vais faire ? Le logiciel dont j'aurais eu besoin quand il s'agissait que je les aide. C'était pas beaucoup plus compliqué que ça. Je te mentirais, Thomas, à te dire que j'ai fait des études de marché pendant 2 ans avant de créer Talentsoft, que j'avais fait un benchmark de la mort. C'est faux. Je dis pas qu'il faut pas faire de benchmark. Je dis, moi, je l'ai pas beaucoup fait. Moi, c'est juste que j'ai essayé de réparer quelque chose que j'ai identifié pendant des années et qui ne fonctionnait pas.
C'est un peu un benchmark non officiel, quand même.
Oui, c'est un benchmark de l'espace du problème. Ça n'est pas un benchmark des solutions qui sont apportées à date. De facto, j'avais bien remarqué que ça manquait de solutions, sinon j'aurais pas ramé comme ça à leur côté, notamment quand il s'agissait de faire des référentiels de compétences. Mais donc, que ce soit au niveau individuel, comme Mark Zuckerberg, que ce soit au niveau d'un corps de métier, comme moi avec la RH, ou que ce soit au niveau sociétal, par exemple sur les boîtes à impact et sur la carbonation, par exemple, des services et des produits des entreprises, dans tous les cas de figure, on identifie quelque chose qui ne fonctionne pas. Cette chose-là nous touche aux tripes. Et on se dit qu'on peut y apporter une réponse. Et finalement, démarrer, c'est pas beaucoup plus que ça.
Et inversement, parce que forcément, c'est jamais simple. C'est pas parce que c'est le produit dont tu as besoin que c'est le bon produit. Et donc là, on arrive à cette notion de pivot versus garder le cap. Et en fait, les deux sont pas forcément incompatibles.
C'est pas du tout incompatible. Je prends souvent, c'est Armand Hatchuel qui était mon professeur dans mon jury de thèse qui disait il y a pas de grande théorie sans petits exemples. Alors là, je donnais un petit exemple pour la notion de pivot et de cap. Tu sors de chez toi un samedi soir rejoindre des amis, t'as ton GPS qui t'indique un chemin, et puis pim, un accident juste devant toi, ton chemin tu peux plus le prendre. Qu'est-ce que tu fais ? Tu annules tes amis ou tu changes de chemin ? Aujourd'hui, des accidents, il y en a tous les jours, dans tous les domaines, dans tous les pays. Il n'y a que ça, sans parler des macro-accidents, Covid, Ukraine et co. Donc en fait, ça veut dire que ce n'est pas pour autant que tu dois changer ce qui a été la raison d'être même de la création de ton entreprise qui t'a pris aux tripes. Il faut toujours garder l'espace du problème en tête et cette flamme, cette envie, cette passion à le résoudre. Par contre, il faut être prêt quasi tous les jours à changer de chemin et les modalités des solutions que tu es en train de concevoir. La difficulté, c'est que si tu peux le faire tout seul dans ton coin relativement facilement, quand tu es 600, tu ne vas pas changer de plan tous les 2 jours. Donc, où est là aussi l'équilibre, le juste milieu entre frapper un mur, parce que de toute façon, en gros, il y a eu un accident, tu ne passeras plus, et puis te dire « Ah bon, bah, c'est compliqué, tiens, et je le vois tous les jours ça, des entrepreneurs qui disent « Ah ben, je vais faire autre chose ». Ah bah super, t'étais vachement motivé sur ton problème initial, toi. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver.
Et à l'inverse, c'est pas parce que t'as un problème que c'est un problème qui touche tant de gens que ça, sur lequel il y a un marché, un modèle. Donc à quel moment, il faut aussi savoir se dire, en fait, c'est peut-être pas le bon projet, c'est peut-être pas la bonne solution, et en fait, c'est peut-être pas le problème.
Mais ça peut te toucher effectivement toi, parce que c'est ancré par rapport à mille choses familiales ou tout ce que tu veux, et puis bah, effectivement, ça te touche un petit peu que toi. Donc là, c'est très simple. Moi, j'ai toujours parlé de toutes mes idées. Le côté, hein, on va te la piquer, bon, de toute façon, tout le monde sait que, ok, même si on te pique l'idée, après, il y a l'exécution. Hein. Et comme je le disais, si t'es pas ultra concerné par cette idée-là, je doute que l'exécution soit bonne. Donc, tu parles de ça. D'ailleurs, c'est Paul Schrader, qui est le scénariste qu'on connaît de Taxi Driver, qui dit « Moi, je fais tout dans l'oralité. Donc, je raconte des histoires. Et je raconte toutes mes histoires. » Donc, on pourrait dire « Il est fou. Hein, il donne les secrets de ses scénarios. »
Après, parce si tu dis « C'est l'histoire d'un taxi qui est bon, va en faire Taxi Driver.
Bah, » Typiquement, il pitch plein d'histoires autour de la solitude qu'il éprouvait au moment où il écrit Taxi Driver. Et en fait, cette solitude-là, il voit une métaphore dans les chauffeurs de taxi qui errent dans New York, seuls dans leur véhicule. Mais c'est une métaphore, à la base, d'un état personnel. Il raconte l'histoire. Et ce qu'il dit, c'est que je la raconte, la raconte, et puis quand je peux aller aux toilettes, et que quand je reviens, les gens me disent « Et alors ?» C'est que je tiens quelque chose. Et c'est la différence entre une histoire qui t'éclate toi, mais dont tout le monde se fout, et une histoire qui va toucher les gens. Donc, il faut parler de ces idées. Il faut essayer de la vendre à des associés, des clients, des VC, tes parents, tes potes. Et tu vois bien quand les gens disent « Ah ouais, je suis d'accord, j'ai le même problème. » Et tu vois bien quand ils disent « Ah ouais, non, je sais pas trop, moi, c'est pas comme ça. » C'est pareil, ça peut paraître un peu un conseil à deux balles. Mais en réalité, moi, je veux bien qu'on aille payer des MBA à 50 000 balles. Mais à la fin de la journée, s'il y avait une usine à créer des idées et des best-sellers, je veux dire, les gens ne donneraient pas des cours. Hein. Ils seraient sur leur île paradisiaque déjà, dans leur maison de rêve. Quoi.
Alors maintenant, on a des IA qui sont capables de produire des œuvres d'art magnifiques. Donc peut-être demain, l'IA qui créera les business de demain.
Tu dis ça en rigolant, mais c'est drôle parce que...
Je sais que je parle à quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au sujet.
Je ne sais pas si tu as eu raison de me brancher dessus. T'inquiète pas, on ne va pas partir ailleurs. En un mot, ça revient exactement, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on se disait là. Est-ce que ça va toucher les gens? Parce que ce soit en musique, que ce soit même aujourd'hui dans le cinéma, hein, sur les scénarios, en peinture, oui, des IA, en poésie, des IA peuvent quelque part créer de l'art. Question, est-ce que ça va me toucher? Moi, mon hypothèse, c'est qu'on est touché par un artiste, Jean-Louis Aubert, il chante ouvertement faux, hein. Je veux dire, s'il écoute, il ne sera pas vexé, il le sait qu'il chante faux.
C'est nos fidèles auditeurs.
Et bah, tant mieux, Jean-Louis, je t'adore justement, parce qu'il chante faux, sauf qu'il touche les gens depuis 40 ans au trip. Une IA, elle chantera probablement très juste. Elle fera une composition probablement très léchée et beaucoup plus élaborée que ne le fera Jean-Louis Aubert ou un musicien même bon. La seule chose, c'est est-ce que ça va toucher? Est-ce que ça va résonner avec nos blessures, avec des émotions, avec des rêves? Et donc, ce qui fait que l'art nous touche, c'est parce que la vibration de celui qui a créé rentre en résonance avec la vibration de celui qui observe l'art. Et ça, je ne suis pas persuadé qu'une IA aussi puissante soit-elle arrivera à nous toucher. Encore une fois, on se marrera si dans 10 ans...
Moi, je pense qu'on va se marrer. Je pense qu'on va se marrer parce que alors, l'art, il y a ce que l'artiste veut donner, mais après, il y a ce que chacun reçoit et on ne reçoit pas tous la même chose. Donc, on peut présumer qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, touchera au moins une personne créée par une IA ou pas.
Et tu as raison. De toute façon, c'est l'urinoir de Duchamp et l'exposition de 1917. C'est qu'à un moment donné, qui décrète qu'un urinoir renversé, c'est une œuvre d'art ou c'en est pas? Donc, de toute façon, de facto... je peux pas te dire c'est de l'art, c'en est pas. Ce que je sais dire par contre pour moi,
ça me touche, ça me touche
ou ça me touche pas. Et à date, je suis pas extrêmement touché par les productions des IA.
Toute cette interview a été produite et pensée par une IA.
Ce
n'est pas moi. Mais d'ailleurs, des choses bluffantes en la matière, développées par l'IRCAM. IRCAM Amplify, hein, qu'on avait reçu dans 40 nuances de Next. On parle client. Un sujet je trouve intéressant, surtout au démarrage d'une boîte, c'est cette idée qu'il faut oser choisir ses premiers clients. Et c'est vrai qu'au démarrage, on aurait dit qu'on n'a pas toujours le choix. En fait, si.
Alors, oui. Alors ça, c'est la notion du libre-arbitre et du choix. Là aussi, c'est une émission à part entière. Nous, on a eu un client, donc quel client dont je parlais, qui précédait la création. Et après, pendant 18 mois, on n'a pas eu le deuxième. D'accord ? Donc, le côté choisir ses clients pour des gens qui ont attendu 18 mois avant d'avoir le deuxième, bon. Néanmoins, un client, c'est une trajectoire. Un client, c'est des demandes, c'est des attentes, c'est des objectifs qui sont fixés. Si tu choisis un client parce qu'il représente un chiffre d'affaires et que ce qu'il te demande de faire n'est pas congruent avec l'objectif, le cap qui est le tien, tu vas faire un détour. Donc il y a.
On a vu avant qu'on pouvait quand même faire des détours.
Exactement. Donc tu as. Je comptais m'arrêter à 20 km. Ah, bon, bah, je vais m'arrêter à 40. Puis tu as. Ah, bah tiens, je voulais descendre à Marseille. C'est super, je vais aller à Lille. Ben, en fait, là, ça te fait rire. Les gens ne voient pas dans le studio, mais tu rigoles. En réalité, c'est ça, choisir ses clients. C'est choisir sa destination. Donc, ça a beau faire briller les yeux. Et je peux t'assurer qu'on a commis un paquet d'erreurs là-dessus. Parce qu'à des moments de ta vie, il faut juste payer les salaires. Donc, tout ce que je raconte est bien gentil, mais il faut payer les gens à la fin du mois. Donc, quand tu as une somme substantielle d'argent qui peut t'arriver, c'est supra dur de ne pas aller la chercher. Le problème, c'est le court terme et le moyen terme. C'est qu'à court terme, ça va sauver tes salaires. À moyen long terme, ça peut tuer ta boîte. Parce que si ces clients-là, et plus ils ont demandé d'argent, plus ils vont te mettre de poids, ils te demandent de réaliser, sur un logiciel en l'occurrence, ils te changent ton plan produit. Ce qui se passe, c'est très simple. Tu as un client qui te dit « il faut aller à gauche » et tu as les 999 que tu as signé avant qui te dit « oui, mais c'est bizarre parce que nous,
que
on a
tu vas signer demain. »
Et donc, en fait, tu te retrouves à essayer de satisfaire un client et d'insatisfaire tous les autres. Je doute que ta boîte en survive et je peux vraiment malheureusement dire, on a choisi parfois des clients qui nous ont sauvés, nous ont aidés, je pense à la Française des Jeux notamment, et si Pierre-Marie nous écoute, il se reconnaîtra. En 2008, il change positivement notre trajectoire et d'autres clients que je ne citerai pas auraient pu nous tuer. Et ce n'est pas de leur faute, c'était à nous de ne pas les signer. Par contre, effectivement, il y a des clients qui sont dangereux.
Dans ce chapitre, je crois que tu parles de Philippe Laville. J'ai plus la métaphore en tête. Ouais,
c'est le moment où je passe vraiment pour un vieux. Donc désolé, tous ceux qui ont moins de 48 ans, ça ne leur parlera pas. Et tous ceux qui aiment profondément la musique, peut-être ne leur parlera pas non plus. Désolé pour Philippe Laville aussi s'il nous écoute.
T'as un problème avec certains chanteurs français.
Non, mais c'est juste, je rigole. Simplement, Philippe Laville, quand je suis petit, il sort un disque qui s'appelle Elle tape sur des bambous et ça lui va bien. Mes parents écoutent ça. Et mon père me dit, tu vois, c'est un drame ce qui lui arrive à ce garçon. Parce que là, il fait un carton, genre numéro 1 du top 50 ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est un féru de jazz. Et là, le problème, c'est que sur le thème choisis tes premiers clients, les clients que choisis, bah, c'est ma mère, c'est mes parents. Ce qui est très content d'écouter ça sur, je sais pas quoi, Chérie FM, une radio vraiment généraliste, populaire, quand lui, en fait, il aurait aimé passer sur TSF Jazz.
Donc, et là, du coup, il s'est gouré d'audience. On l'invitera peut-être plus.
Et il n'a jamais fait de jazz, ouais. La fin de l'histoire. Donc après, à quel point il a essayé ou à quel point il s'est dit, bon, je m'en fous, c'est très bien comme ça. J'en sais rien, je le connais pas intimement. Ce qui est sûr, c'est que la radio qui va te faire éclore, c'est pas facile de la quitter. Donc, faut bien méditer. Et ça, tous les cinéastes le savent aussi. Si tu as le malheur de faire un carton sur une série comique, tu peux toujours avoir un problème, un drame de 1930 en Pologne du Nord. À mon avis, il n'y a aucun producteur qui te signera jamais. Donc, c'est très compliqué. Comment exister sur ce qui nous touche vraiment et comment oser refuser un éventuel succès sur quelque chose qui nous concerne moins et qui ne nous touche pas. Chacun doit le faire entre son âme et conscience, mais on ne mesure jamais à quel point ce type de décision peut conditionner une vie, en fait.
Bah, c'est l'histoire d'un acteur qui va prendre une pub télé, qui va avoir un gros succès, et à qui on confiera...
Alors tu vois, et le contre-exemple absolu, c'est Dujardin. Il est sur un gars, une fille, et le gars, il touche un Oscar pour The Artist, et il fait J'accuse. Donc, c'est pas une règle d'airain. Mais je pense qu'en termes de probabilité, des Dujardin, il y en a moins que des gens qui ont été coincés par un rôle où, et là pour le coup, James Bond, bah, Sean Connery, c'est quand même James Bond, quoi. Il a eu du mal à faire autre chose.
Là, on va aborder un sujet autour d'une phrase qu'on a souvent entendue dans le monde entrepreneurial et peut-être a fortiori dans le monde des startups et de la tech. Cette idée de fake it until you make it. Tu nous dis magnifie mais ne ment pas. Et en l'occurrence, ça a créé des débats.
Oui, et d'ailleurs, pour être ultra honnête, ce que j'essaye d'être depuis le début de l'émission, j'ai hésité à écrire ce chapitre, j'ai hésité quand il a été écrit à le sortir et j'ai pas eu que des compliments sur... Pour certains, c'est le meilleur chapitre du livre et d'autres ont envie de me tuer à cause de celui-là. En fait, comment on achète la confiance ? Ce chapitre parle de ça. Quand t'es rien, tu n'existes pas, t'es pas dans les cadrans, t'es pas où il faut. Comment tu convaincs quelqu'un que tu es la personne qu'il faut choisir? À un moment donné, tu dois acheter la confiance. Acheter la confiance, c'est dire à ton interlocuteur, j'ai ce dont tu as besoin, quand bien même on ne l'a pas encore. Et là, j'ai mis dans cette phrase, magnifier et mentir, côte à côte. Pourquoi? Parce que si tu, en gros, acquiers un client en vendant quelque chose que tu n'as pas, en sachant pertinemment que tu ne l'auras jamais, mais en te disant, une fois que j'ai signé, je m'en fous, de toute façon, il ne pourra pas faire marche arrière. Alors là, tu fais partie de la catégorie des menteurs, voire des escrocs. Mais si tu te dis, bon, ben, j'ai besoin de ce client, et ce qu'il me demande de faire, je ne sais pas si c'était complètement ce que je voulais faire, mais c'est pas orthogonal à ma direction. Pour le coup, ce n'est pas Lille alors que je l'ai à Marseille. Donc, je vais lui dire que je l'ai. Et quand on va signer, par contre, je vais me défoncer pour qu'il apprenne jamais qu'au moment où j'ai signé, je ne l'avais pas. Parce qu'au moment où on ira en production, il l'aura. Et c'est toute la différence. Ce qui fait que pourquoi tu m'as dit que ça fait débat, c'est que bah, des gens chez moi me disaient « Alex, t'es un menteur. T'as dit que ça y était pas. » Et moi, je leur disais « Non, j'anticipe. Parce que je peux vous assurer qu'à partir de cette seconde, on va l'avoir. » Et évidemment, ça n'a pas une science exacte. Et c'est arrivé qu'on ne l'ait pas à temps. Et que je me plante et que je dois aller voir le client piteusement en disant je suis désolé en fait voilà on l'avait pas au moment où mais et donc là c'est comme un gamin qui a été pris en faute quoi tu
c'est veux. Arrivé
bien sûr que c'est arrivé bah tu t'imagines en termes de probabilité et c'est bien le problème c'est la mesure du risque. Quel risque t'es prêt à prendre et comment tu vas mesurer le fait que ce risque, il est important, pas important? Moi, ce que j'ai jamais fait, c'est regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire un truc en me disant « je vais pas y arriver ».
J'y crois pas.
Ouais. J'y crois pas ou je vais pas y arriver. Je n'ai jamais fait ça. En revanche, le regarder et dire « c'est bon, faites-moi confiance, on l'a, et ça est utilisé par qui ?»« Oh, bah ça démarre, voilà. » Et là, tu sors la pompe à brouillard, comme dit un de mes potes. Pourquoi j'ai écrit ce chapitre? Parce que tout le monde fait ça. Et je pèse mes mots, hein. Tout le monde fait ça. Et il y a une hypocrisie mondiale à faire comme si on ne le savait pas, des deux côtés d'ailleurs, du côté de l'acheteur et du côté du fournisseur. Il faut se dire qu'à un moment donné, on a tous un problème. On veut faire confiance au leader, on veut acheter un truc qui existe déjà. Et en fait, en réalité, c'est jamais aussi simple que ça. Donc, on gagnerait à donner davantage sa confiance aux gens, non pas sur « montre-moi que c'est là sur ton étagère », mais en quoi c'est vraiment intéressant pour toi d'avoir ça? Parce que quand bien même tu ne l'as pas, si je sais que c'est intéressant pour toi, je sais que tu vas te défoncer pour l'avoir. Et donc, c'est intéressant de corréler ce chapitre au précédent.
Sur les CV? Parce que ça marche aussi un peu avec CV. Cette notion de « je fais confiance à l'homme et à l'équipe ».
Tout à fait.
Et pas à ce qui est déjà réalisé.
De toute façon, ça, c'est ma ligne de conduite pour le coup. C'est comme ça que je conduis ma vie. Non, c'était plutôt sur le fait de dire à un moment donné... On doit être capable en tout cas de bâtir un climat de confiance et on doit être capable de voir si le sujet qui est sur la table concerne vraiment et le fournisseur et l'acheteur. Parce que je t'assure que pour un acheteur, il y a vraiment moyen de savoir que ce dont tu es en train de parler, en fait, le fournisseur s'en fout, quoi. Et donc, nous, ce qu'on n'a jamais fait, bah, et à raison, puisque sinon, on aurait encore une fois, on aurait atterri à Lille plutôt qu'à Marseille, exactement.
Désolé pour les Lillois, voilà, c'est pour l'exemple.
Ou inversement, oui, moi voilà, j'aime autant les deux villes. Je me suis déjà fâché avec deux artistes, je ne vais pas me fâcher autant que Lillois ou Marseillais. C'est simplement de dire, il faut en gros être dans ton jeu, quoi, dans ton game, et pas jouer à tous les jeux à la fois. Par contre, sur ce game-là, bah ouais, faut prendre des risques. Hein, et qu'un entrepreneur ose prendre la parole sur ton micro et dire « Ah non, c'est pas vrai ce qu'il a dit, non, on est toujours ultra sûr de ce qu'on fait, c'est faux. »
Bah écoute, on va peut-être créer pour la prochaine version de 40 nuances de Next la rubrique Alex Pachulski. la dernière fois où t'as menti à un client.
Bah, cela dit, tu sais, je pense qu'on aura des belles histoires, hein.
Toujours sur cette notion de client, tu ouvres un chapitre intitulé « Rends la vie de tes clients moins misérable ». Je trouve ça drôle.
Alors c'est totalement corrélé à ce que je viens de dire. Ouais. Parce que si tu n'es pas persuadé que tu vas satisfaire la demande de ton client, bon, déjà tu sais que toi tu es dans la merde et tu vas le mettre dans la merde. Donc si tu as un tant soit peu d'altruisme ou de conscience professionnelle, bon.
Moi il y avait un sujet, pardon je te coupe, m'avait marqué, je ne sais plus, ce directeur peut-être des services d'information que vous allez voir dans une grosse boîte du CAC 40 qui vous dit c'est génial ce que vous faites, donc là les yeux qui brillent, c'est bon, on va signer notre premier client du CAC. Et en fait...
On est ravis, on est aux anges. Et il me dit, bien sûr, vous comprendrez bien que je ne peux pas vous signer.
Évidemment. Bon,
alors là, on range le stylo, un petit peu déçu, j'avoue. Et on ose cette question, ah bon, pourquoi ? En fait, il nous dit cette chose très simple, donc qui est en lien avec le chapitre sur rendre la vie des clients moins misérable. Il dit, en fait, si je vous signe et que ça fonctionne miraculeusement, parce que vous êtes tout petit, inconnu, on ne va pas venir me féliciter. Personne ne viendra me dire bravo, parce qu'on ne va jamais féliciter un patron des SIRH. Par contre, si ça ne marche pas, tout le monde va me tomber dessus en disant, mais pourquoi tu n'as pas pris SAP ou Oracle, qui sont des leaders reconnus ? Ça veut dire qu'à un moment donné...
C'est cette phrase, on ne me virera pas parce que j'ai choisi IBM.
Bah oui, c'est ça, exactement. Donc c'est la prime à la sécurité. Et on est toujours sur la mesure du risque. Donc ça, c'est la première chose. Les gens vont majoritairement travailler pour gagner leur vie et essayent de le faire dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a pas franchement de raison pour la bonne gueule ou la bonne foi d'Alexandre Pechulski de se mettre à risque à ce point-là.
Ok, alors une fois qu'on a dit ça, c'est un beau principe. Mais comment on le signe ce...
Alors, je rends à David Bernard ce qui est à David Bernard. C'est lui qui, c'est un des premiers qui m'avait donné ce conseil-là. Rend la vie des clients moins misérable. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que le boulot, pour beaucoup, c'est une obligation. Et donc, quand tu as l'opportunité de passer un bon moment avec un fournisseur, je ne te parle pas de se taper sur le ventre et de sortir des blagues, mais d'aimer travailler avec des gens, d'avoir l'impression que tu construis quelque chose qui a un peu de sens, que la manière de travailler est assez convergente avec la tienne. Ben, indépendamment du fait justement qu'il y ait la fonctionnalité 42 ou B27 ou pas, tu te dis juste, en fait, j'ai envie de travailler avec cette personne-là. C'est vrai du recrutement, mais c'est extrêmement vrai de la relation client-fournisseur. Et rendre la vie des clients moins misérable, ça veut simplement dire que tu peux t'évertuer, mettre vraiment tout ton cœur, ta tête, toute ton énergie à faire le plus beau projet du monde. Si tu arrives super stressé à chaque réunion, si tu es hyper tendu, si tu génères un niveau de stress sur chaque question, tu as peut-être le meilleur produit du monde, mais les gens vont se dire, il me fatigue. C'est-à-dire que je peux pas, c'est trop de stress. Donc même s'il y a un super produit, c'est trop cher. Tu vois, le coût d'acquisition, humainement, il est trop cher. Alors qu'à l'inverse, si tu as envie de construire quelque chose avec quelqu'un, tu seras prêt à accepter que peut-être il manque telle fonctionnalité ou telle autre. Alors tu pourrais me dire, ah, c'est vachement égoïste parce que du coup, quelqu'un peut mettre toute sa boîte dans la merde parce qu'il aime bien un fournisseur. Bah, je vais te dire un autre truc plus simple. Est-ce que tu crois que quand il y a une relation client-fournisseur ultra tendue sur l'outil soi-disant parfait pour la boîte, mais avec un projet qui se passe de façon déplorable parce que les gens ne s'entendent pas, est-ce que c'est mieux pour l'entreprise ? Donc là aussi, une question d'équilibre. Ce n'est pas tout pour le produit. Et c'est pas tout pour « je m'entends bien avec le fournisseur ». Ce qui est sûr, c'est que les gens ne sont pas assez honnêtes avec eux-mêmes. Quand ils sentent que ça ne le fait pas avec quelqu'un, que ce soit encore une fois au recrutement, dans le choix d'un fournisseur, d'un client, ce que tu veux, vaut mieux pas y aller parce que ça ne marchera pas. Et tu vas faire des efforts, mais combien d'années, combien de mois et à quel niveau d'intensité ?
Et donc ça, d'énergie.
Ça, je crois qu'il faut être super honnête avec soi et humble. On peut faire des efforts, mais jusqu'à un certain point.
Alexandre, du coup, je vois bien ces deux finalement ces deux profils de clients entre celui qui est prêt à prendre certains risques parce que c'est avec toi qu'ils ont envie de bosser, à l'inverse, d'autres qui sont peut-être plus frileux, en tout cas qui veulent respecter, limiter le risque, je vais plutôt le dire comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment, avec ces gens-là, on arrive à faire la bascule, si vous y êtes arrivé pour certains.
Oui, on y est arrivé, puisque bon, là, quand même, la fin de l'histoire, c'est qu'on a signé pas mal d'entreprises du CAC 40, on a quand même eu des grands ministères, on a quand même travaillé avec des SNCF, des EDF, des La Poste, quoi. Donc oui, on a quand même craqué le truc à un moment donné.
Mais il en faut un premier. Est-ce que c'est comme ça, sur la confiance qu'on arrive à convaincre les frileux, c'est d'avoir le premier qui te suit et qu'on va chercher dans les gens que tu as évoqués aussi?
C'est là où, si tu veux, il ne faut pas se tromper, on est sur un escalier, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas 0 to 1. Hein, j'adore Peter Thiel, mais je veux dire, là, c'est un escalier, c'est très incrémental. Tu démarres, d'abord, tu n'as rien. Personne ne te fait confiance. Donc là, c'est uniquement quelqu'un qui te fait confiance à toi puisque tu n'as rien. Quand tu en as 5 comme ça, c'est plus facile. Ces 5-là te permettent d'engranger 15, 20, 50, 100 autres clients. Mais tu as un problème de taille. Là, à un moment donné, c'est un mix de le plan produit que tu vas bâtir pour commencer à adresser des clients d'une taille différente, donc minimiser la prise de risque, parce que tu commences à vraiment faire valoir tout ce qui importe pour les gens qui, en l'occurrence, parlons de la taille des entreprises, ont une taille supérieure à celle que tu adresses d'habitude. Tu as ensuite le nombre de références que tu peux afficher et tu vas chercher les deux, trois plus gros. Et c'est très simple. Le premier client à 50 000, tu vas chercher trois clients à 10 000. Tu fais communiquer les trois clients à 10 000 en disant « voilà pourquoi ils ont fait un beau boulot ». Donc, tu sécurises en partie le client à 50. Reste, oui, mais si ça marchait à 10, qu'est-ce qui fait que ça marchera à 50? Et là, tu découpes la différence entre 10 et 50 et tu adresses, alors là, plus du tout sur la notion humaine, confiance, machin, mais ultra rigoureusement, pourquoi tu y arrives? En l'occurrence, nous, les tests de charge. Est-ce que quand ça marche à 10 000, la performance est la même à 50? Là, il faut des partenariats. Donc, une des recettes phares, c'est d'avoir l'air plus gros que ce que tu n'es vraiment grâce à des partenaires. Nous, aile gauche à la création IBM qui nous héberge, aile droite Microsoft qui nous aide sur le logiciel. Ce qui fait qu'au premier jour, on est 4,5 avec 0,3 clients et ouais, mais on est capable de faire des tests de charge à 500 000 collaborateurs. Donc ça plus, qu'est-ce qui se passe si on merde? Et donc évidemment, les contrats des premiers clients un peu trop gros pour toi, et donc l'histoire je la raconte dans le livre, ce premier client qui en gros en termes de rémunération, c'est 10 fois ce qu'on a l'habitude de faire. Donc en termes de perf, même si tu veux de fonctionnalités, c'est pas les mêmes fonctionnalités. Hein. On l'a vu entre Pôle emploi et EDF, 3 millions d'heures à 9 millions d'heures de formation, tu peux te dire, bon, pff, c'est des millions. Non, de 3 à 9, il y a énormément de différence. Ben là, qu'est-ce qui se passe? Le DRH, qui était vraiment, je le salue, s'il nous écoute, il se reconnaîtra, nous dit, bon, bah là, c'est très simple. Donc, on a fait tout ce que je viens de te dire, hein, Thomas. Ouais. Mais à la fin, il y a quand même ce risque. Il y a quand même ce saut dans le vide de la personne qui va te dire, OK, j'y vais. Il nous dit, bah là, c'est simple. Si jamais vous me plantez, et il le dit à toute mon équipe, hein, qui bossait pour lui, je ferai en sorte que vous mouriez, que la boîte crève. Par contre, si vous réussissez, je ferai de vous des héros. C'est véridique. Et donc, on a réussi. Et
là, effectivement... t'arrives dans ta notion de quête, là, Seigneur des Anneaux.
Ah, mais là, on est dedans. Et je peux te dire que t'es avec... tu sais pas si t'es face à Sauron. En tout cas, t'as peur. Je peux te dire que t'as peur. Tu te dis, waouh, si les gens sont pas démotivés ou terrifiés après ça, good luck. Et en fait, on y est arrivé. Et quand on y est arrivé, la personne, pendant 6 à 7 ans, donc pour répondre à ta question concrètement, a pris des appels en disant, ils m'ont pas planté. Et c'était la première fois qu'il le faisait à cette taille-là. Ce qui fait que la fois d'après où on fait 10 fois la taille de cette personne, tu te dis, bon, ils ont l'habitude de faire des jumps. Donc, tu dois découper l'appréhension de la personne en petits bouts et adresser chaque petit bout. Mais il n'y a pas de saut quantique. Ça n'existe pas. Je n'y crois pas, en tout cas.
Sans transition, la suite, pour rester dans les parallèles, moi je cite les guignols de l'info.
Allons-y, après Philippe Laville. Hein,
sur le chapitre autour de la culture d'entreprise, il y a deux points que je voulais relever. Celui qui dit vit ta culture ne la raconte pas. Et ça, je trouve que c'est un vrai sujet, moins dans les startups peut-être, mais encore que dans certains grands groupes. Donc voilà, ça y est, on rentre dans le débat.
Ouais, bah, dans les grands groupes, c'est moqué. C'est moqué, c'est-à-dire c'est facile de mettre des kakémonos au mur et de faire des séminaires de team building avec des prestataires payés des centaines de milliers d'euros pour une journée où au forceps on va faire croire qu'on est tous relax, cool et que la valeur c'est excellence, plaisir, générosité. Bon.
Et surtout que ces valeurs sont amenées à changer tous les trois ans, ce qui interroge ça, sur le fond des valeurs.
Moi je te dis malheureusement j'adorerais changer aussi vite, être ultra flexible, mais mes valeurs malheureusement évolue un peu moins vite. Je crois que c'est le cas des entreprises aussi. Donc, bon, évidemment, là, c'est moqué souvent. Quand une valeur est réelle, tu n'as pas besoin d'en parler. D'ailleurs, tu sais, excuse-moi du parallèle, mais je ne suis pas sûr que c'est parce que tu dises à quelqu'un que tu l'aimes qu'il va le ressentir. On n'est pas forcément très démonstratif dans votre environnement. On préfère les actes aux mots. Bah, là, finalement, la culture, c'est pareil. Si tu es obligé de dire, mais je te dis qu'on est bienveillant, tu vois bien qu'il y a des kakémonos partout. Non, si la bienveillance est là, je te donne un exemple très concret, hein, pareil, pour que ce ne soit pas du bullshit. J'ai fait toutes les promos de onboarding. Donc, on faisait des promos et j'en ai raté une fois parce que j'étais malade en 15 ans. Et tous les candidats disent la même chose. On sent une bienveillance dans cette boîte, c'est étonnant.
Alors, c'est faux que ce ne soit pas affiché au mur.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans toutes les interactions qu'ils ont eues, avec les RH, avec les managers, avec peut-être la standardiste ou le standardiste, ils ont senti quelque chose. Et ça peut pas être du bullshit et ultra coordonné à ce point-là. C'est Rocard qui disait, faut quand même faire confiance à la connerie naturelle plutôt qu'à la capacité à créer des complots, quoi. Et en fait, tu peux pas à ce point-là te coordonner pour donner l'illusion de quelque chose. Donc, quand les gens tous te le disent, t'as pas besoin de faire des études et appeler McKinsey, tu sais que t'es bienveillant. Et l'inverse est tout aussi vrai. Tu t'imagines d'une certaine façon dans la culture de l'excellence, on te dit mais c'est un bric-à-brac, c'est le bordel, c'est pas ambitieux, tu peux prononcer le mot excellence tous les matins en arrivant au boulot, ça en fait pas une valeur. Donc c'est vrai que la limite de ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, quand tu veux, quand t'es 600, 6000, 60 000, comment ça rayonne? Le rayonnement, c'est jamais que les individus qui t'entourent. Et donc, il se peut qu'à un moment donné, il y ait des cultures. Parce que tu as des pays, parce que tu as des départements, parce que tu as des managers.
Et donc, ça, il faut l'accepter.
Oui, il faut l'accepter, mais il faut aussi lutter contre ça. C'est-à-dire que régulièrement, il faut essayer de reconstruire une culture commune. C'est pour ça que j'ai découvert ça. On ne préserve pas sa culture. On la perd et on la reconstruit sans cesse. Et ce qui compte quand les fondateurs sont encore là, quand ceux qui ont à cœur que les éléments initiaux soient toujours là, c'est de remettre dans des ensembles. Quand on est passé en 3 ans de 150 à 450 personnes, je peux t'assurer que la petite culture a été saccagée. Mais on a recréé, avec d'autres us et coutumes, d'autres pratiques, d'autres modes de gestion de crise, d'autres processus, la façon de refaire vivre ce qui comptait pour nous, en acceptant qu'il y ait des nouveaux éléments dans la culture qui soient liés à ces 450 plutôt qu'à ces 150, qui soient liés à du multiculturel, du multisectoriel et tout ce que tu veux. Donc, c'est un mix, encore une fois, un équilibre entre les valeurs pour lesquelles tu es prêt à te battre et la place que tu laisses aux gens qui arrivent pour qu'ils mettent aussi de même.
Concrètement, tu l'as dit, c'est des actes plus que des mots. Vous l'avez vécu, ce délitement à un moment, parce que forcément, tu n'es plus au quotidien avec chacun. C'est plus toi qui insuffles tout à tout le monde, ce qui est possible à 10, à 20, à 30, les plus à 600. Comment vous en apercevez déjà qu'en fait, il y a une grosse dissonance entre ce que vous pensez avoir créé, ce qui était une réalité pour tout le monde, et très concrètement, sur quoi vous décidez d'appuyer quand tu dis on a mis en place des choses? Quoi?
Alors d'abord, comment tu t'en rends compte? C'est très simple. Tu as une crise client, puisqu'il y a toujours des crises clients. Et là, tu appuies sur le bouton résolution de la crise client, qui a toujours bien fonctionné jusqu'à présent. Et puis ça marche plus. Ça marche plus, ça veut dire que là où les gens avaient dans cette culture une façon... Parce que culture, c'est pas... La culture, c'est de se retrouver le jeudi soir à un after work. C'est pas ça la culture. La culture, c'est comment tu résous tes crises, comment tu prends tes décisions, comment tu accueilles les gens, comment tu te sépares des gens. Tout ça, c'est la culture. Et tu as donc un problème client, par exemple, et tu te rends compte que ça répond plus. C'est-à-dire que les gens n'ont plus le même engagement, plus la même façon de procéder, ils créent 27 réunions quand tu en avais que 3. Et donc, tu te dis, merde, pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils compliquent tout? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a perdu? Et donc, tu es obligé de te questionner. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'abord, évidemment que tu ne peux pas toucher les 600. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises quand tu grandis? Bah, tu ne touches plus que ton râteau des N-1 et des N-2 si tu es un aventureux. Bah, ça, c'est la pire des conneries qu'on puisse faire. Ça veut dire que tu ne touches plus personne. Tu ne touches que par effet d'onde. Donc, il faut
avec une déperdition de tout à chaque fois.
Tu imagines la déperdition, la distorsion du signal. Donc la première chose qu'il faille faire, c'est péter la hiérarchie, retravailler par projet, choisir des projets qui te donne une raison réelle, pas juste comme un couillon de balader dans les couloirs en faisant « moi je parle à tout le monde ». Ok, mais c'est pas ça. La culture, c'est un peu faire la guerre ensemble, être sur le terrain ensemble. Donc tu crées, tu te mets sur des projets où tu vas reparler à tout le monde. Alors tout le monde, ça ne veut pas dire les 600, mais ça veut dire tous les niveaux hiérarchiques, tous les métiers, tous les pays. Et donc tu choisis un projet transverse, donc tu as tous les pays. Tu choisis un projet client, X ou Y. Et là, tu auras les développeurs, les chefs de projet, le marketing et tout ce que tu veux. Tu te mets sur un événement marketing et tu reparles. Donc, en permanence, il faut se mettre sur 2 ou 3 projets choisis qui permettent d'explorer toute l'entreprise. Et en un an, te dire, bon, j'ai pas vu tout le monde, mais j'ai pris le pouls. Et ça, c'est super important. Ça répond...
J'ai reconstruit du commun, arrêter de faire des silos.
L'exemplarité, même chose, faut pas parler. c'est tu dis, je veux qu'on soit exemplaire, discipliné, et à chaque réunion, tu te pointes 25 minutes en retard. Mais tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire tous les processus que tu veux. Les gens se disent, bon, de toute façon, on s'en fout, dans cette boîte, on peut arriver en retard. Regarde Alex, il arrive 25 minutes en retard. Donc en fait, tu mets de l'exemplarité partout, peu de mots, beaucoup d'actes, de la démonstration, et tu essayes qu'il n'y ait aucun élitisme pour voir tout le monde.
Un peu plus tard dans notre échange, je reviendrai sur « tu peux pas te permettre d'arriver avec 25 minutes de retard mais je voudrais poursuivre sur la notion culture. »
Je suis arrivé à l'heure,
pourquoi
tu me dis ça ?
Non, mais tu verras, tu verras. Non, je précise effectivement
que
tu es même arrivé ici avant moi. Bon. Nos bureaux sont complètement ouverts.
C'est très sympa.
C'est gentil. Non, tu parles aussi de bâtir une entreprise, pas une secte.
Ouais, alors là, pareil, hein, j'en ai fait un paquet de conneries. Ça, c'est une des conneries que j'ai faites et que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs. Comme je le disais, donc moi, je suis quand même quelqu'un de conviction. Donc forcément, ce que je pense être bien, je pense que c'est bien pour tout le monde. Et typiquement, je pense que c'est bien de construire son expérience professionnelle, moi qui ai toujours été entrepreneur. Et donc, je veux faire quoi ? Je veux que tout le monde construise son expérience professionnelle. Et je vois des gens, au bout de 2-3 ans, venir me voir, dire « je t'en supplie, dis-moi quoi faire et arrête d'attendre de moi que je crée mon job en arrivant. Quoi. J'ai besoin que tu me dises quoi faire, moi j'ai besoin d'exécuter. » Et là, je comprends que le but, d'une part, c'est pas que tout le monde fasse comme toi. C'est qu'il y a les gens qui aiment exécuter, d'autres qui aiment créer. Il y a les gens qui sont du matin, d'autres du soir. Et donc, il ne faut pas voir le monde au travers de tes yeux et de ce que tu crois être bien et mal, première chose. Deuxième chose à propos de la secte, c'est qu'à partir du moment où moi je suis passionné par le fait d'aider les gens à trouver quel est leur talent et le révéler, j'ai voulu que tous les gens qu'on recrute soient passionnés par ça. Et évidemment qu'à 600, je te le donne en 1000, il y a des gens qui sont venus juste bosser, qui s'en foutaient en fait de ça. La question, c'est à quel point tu peux l'accepter ? Tu ne peux pas accepter que 500 personnes s'en foutent, parce que je peux te dire que ta boîte, elle est par terre. Mais tu ne peux pas espérer que 600 personnes viennent le matin avec ça en tête. Donc, je reviens sur l'idée de la communauté de l'anneau. En fait, tu dois accepter que les gens viennent avec des motivations différentes, mais qu'à un instant T, on arrive à quand même se mettre ensemble en mouvement vers un cap commun, avec des gens qui, parfois, ne partagent pas ni tes opinions professionnelles, personnelles, politiques, tout ce que tu veux. Mais une nouvelle fois, ce n'est pas une secte, ça n'est pas une dictature. Et la dictature du bien, je m'en méfie maintenant comme de la peste, parce que finalement, il y a peut-être des dictateurs qui sont persuadés que c'est ce qu'il y a le mieux à faire pour leur pays, mais ça reste des dictateurs.
Mais est-ce que justement ce principe de secte ou de dictature ne fait pas qu'à un moment, du coup, tu as... t'as des œillères et qu'on ne te fait pas remonter ce qui ne va pas, c'est aussi le risque. Au-delà du principe de dire on n'a pas envie d'une secte ou pas envie d'une dictature.
En fait, là aussi, pas de mots que des actes. Quand tu recrutes des gens qui t'ont dit, alors je ne vais pas te mentir, les gens qui me disaient c'est quoi ta motivation première, c'est pas loin de chez moi, je les recrutais assez peu. Hein, parce que ça ne me semble quand même pas être un niveau de motivation suffisant. Mais les gens qui me disaient, je te donne un exemple très simple de premier développeur. Moi, je voulais évidemment des gens passionnés par ce que je viens de dire. Je dis, bon alors, ça t'intéresse, la RH, les talents et tout. Ils me disent, j'en ai rien à faire. À l'entretien, véridique. Hein. Ouais, je me dis, bon, super. Mais en même temps, quand je me mets sur un projet, en général, je me mets vraiment dedans. Donc, je reviens sur la confiance. Je lui fais confiance ou pas ? Je me dis quoi ? Je me dis, je connais pas cette personne.
On va voir s'il se met vraiment
dedans. Je sais à minima qu'elle est au moins courageuse et sincère. Deux bonnes raisons pour lui donner sa chance. La personne, elle est partie en même temps que moi, en gros. Elle est restée quasiment 15 ans. Et elle a fait un travail extraordinaire. Donc, typiquement... si tu raisonnes façon secte, tu ne recrutes pas cette personne et tu passes à côté d'un talent incroyable.
J'ai plus une anecdote, mais dans ce chapitre, tu prends comme référence The Master.
Oui, parce que le film de Paul Thomas Anderson, qui est extraordinaire, montre bien le pouvoir que peut avoir Philip Seymour Hoffman, en l'occurrence son personnage, sur quelqu'un un peu paumé, Joaquin Phoenix, et sous couvert du bien, va en fait le manipuler dans tous les sens. Donc si tu veux... derrière, vraiment, je me suis déjà moqué de ça, donc tant pis aussi pour ceux qui nous écoutent, les chief happiness officers, ainsi de suite. Il faut faire attention avec tout ça. Je veux dire, il faut vraiment respecter pourquoi les gens travaillent, après quoi ils courent, quelles sont leurs aspirations. Il faut beaucoup leur parler, il faut beaucoup les écouter. Il faut beaucoup accepter que les gens ne fonctionnent majoritairement pas comme toi. Mais en revanche, ce que montre très bien le film, c'est que tu peux arriver à faire faire à quelqu'un sous couvert de « mais moi aussi je suis passionné de talent et trucs », des trucs dégueulasses. Tu dois t'assurer que tu n'es pas en train de le manipuler sous couvert qu'il soit passionné par ta cause et que tu le fais bosser jour et nuit en le sous-payant et qu'en plus ils doivent dire que c'est formidable. Toute ressemblance avec des startups qu'on peut connaître évidemment est tout à fait fortuite. C'est un monde très pressurisant, le monde des startups en fait. C'est pas le monde ultra cool en basket, sweat à capuche qu'on dépeint. Parfois c'est un monde dur. Et donc il faut se méfier, sous couvert de cet environnement qui a l'air sympathique, de se faire pressuriser de trop. Et je le dis juste pour Apple, d'il y a 20 ans, qui n'a plus rien à voir avec l'Apple d'aujourd'hui, il y a des gens qui se faisaient quand même martyriser, mais par amour du badge, ils étaient prêts à suivre Steve Jobs jusqu'au bout du monde. Parce que c'était Apple. Donc voilà, tout ça, c'est chacun doit réfléchir en son âme et conscience, mais doit se poser la question, est-ce que je suis Joaquin Phoenix et est-ce que je suis face à Philip Seymour Hoffman, quoi.
Bonne transition pour rester sur les notions de management. T'évoquais la notion d'alchimie et comment on la crée. Et pour ça, tu fais le parallèle avec Velvet Underground.
Ouais. Pour ceux qui aiment le rock, qu'on groupe créé dans les années 60, comme le disait Lou Reed, le premier album, on en a vendu 3000. Par contre, ça a créé 3000 groupes de rock. Donc, influence majeure du rock, plus tard même du punk. Et en fait, le Velvet, c'est amusant parce que Lou Reed était dans des groupes et c'était tellement mauvais, il chantait tellement mal et c'était vraiment tellement horrible que de gig en gig, de soirée en soirée, il devait changer le nom du groupe, sinon on voulait plus de lui. Donc ça te met un peu les talons de performance. Et John Cale, qui est un intellectuel hallucinant, lui, il avait vu sur une pièce de Debussy qu'en fait, il fallait jouer cette pièce 840 fois d'affilée. Et lui s'amusait à faire des spectacles de 18 heures en répétant 840 fois la même chose. By the way, le Velvet, et notamment un des membres, inventera le drone, c'est-à-dire ce petit gimmick répétitif indépendamment de la suite harmonique d'accord. Et donc, ce qui est amusant avec ce groupe-là, c'est que tu les prends indépendamment. Donc, tu as un esthète qui tue tout le monde 18 heures et l'autre dont personne ne veut. Ils se mettent ensemble et ils font quand même un des plus grands groupes de rock qui n'est pas un des plus gros vendeurs, mais qui est un des plus gros influenceurs du rock sur les 30 années qui ont suivi.
Dans ce chapitre-là, tu reviens sur une anecdote que je trouve importante pour illustrer cette notion d'alchimie et en même temps à quel point parfois on peut créer des difficultés pour que le rouage tourne aussi. Tu prends l'exemple d'un de tes collaborateurs, je crois, très talentueux, qui arrive systématiquement avec 5 minutes de retard après la fin de chaque réunion. Donc, ça crée des crispations. Et tu vas le défendre. Et alors là, pour le coup, il y a débat.
Alchimisme ou favoritisme.
Ouais.
En fait, l'alchimie, donc, c'est pour moi, désolé, c'était définition infantile, c'est une forme de magie qui s'opère dans un groupe. C'est un dîner que vous faites. Tu prends 5 personnes un samedi soir, tu reprends 5 personnes, les 5 mêmes le samedi d'après. Tu as un dîner incroyable, une ambiance, un climat, les gens partent plus, des débats passionnés. Et puis la semaine d'après, je sais pas, les gens sont moins en forme, la bouffe est moins bonne, j'en sais rien, t'es de mauvaise humeur.
Ça tient à rien.
Ça se passe pas. Il n'y a pas de recette là aussi, on ferait que des dîners super sympas sinon. C'est ça l'alchimie. Alors quand t'es manager, c'est ça ton job. C'est de créer quelque chose au sein du groupe. Alors on le voit très bien dans le monde du sport. Je parlais du Velvet, ils ont créé une alchimie. Alors même s'ils se foutaient sur la gueule, ils se battaient dans les coulisses. Hein. Sauf que sur scène, en studio, c'était un truc de dingue. Les Beatles aussi hein, étaient loin de s'entendre parfaitement. Hein. Ce que montre très bien le documentaire de Peter Jackson. Et donc en fait, c'est ça le job d'un manager, c'est réunir des gens, faire que la mayonnaise prenne et que cet ensemble donne le meilleur de lui-même. La difficulté est que il faut personnaliser les relations avec chacun pour que chacun individuellement soit bien dans ses pompes et en même temps créer une culture, des règles communes pour que le groupe vive à peu près sur de la même façon. Et donc cette personne-là à laquelle tu fais allusion donc vient 5 minutes après la fin de tous les sprint meetings et tout le monde de me dire Alex, il faut que, en gros, tu... c'était même pas moi qui le manageais.
Ouais.
Mais on savait que j'étais proche de lui. Mais je le manageais même pas, hein, pour info. Et on venait me voir moi en disant, il faut que tu lui dises d'arrêter ça, il est en train de tuer ses managers. Et moi, de répondre effectivement de façon... je ne le recommande pas à tout le monde, je ne m'en vante pas, mais c'est la vérité. Je disais, écoute, quand vous serez aussi talentueux que lui, vous pourrez aussi vous permettre d'arriver 5 minutes en retard. Alors pourquoi je fais ça? Cette personne, pareil, est restée les 15 ans. Elle, je ne peux pas te citer le nombre de situations démentes qu'elle a démerdées, de produits qu'elle a créés, d'innovations qu'elle a apportées. Elle a eu un impact majeur sur l'entreprise. Et culturellement, jusqu'au bout, cette personne s'est battue pour les valeurs de l'entreprise. Alors ça, c'est hyper drôle, alors qu'elle était vue comme absolument non exemplaire. Et en fait, je le faisais d'abord, effectivement, parce qu'il était talentueux, mais j'avais surtout compris pourquoi il le faisait. C'est qu'en fait, cette personne voulait qu'on la respecte, qu'on ne la contraigne pas à rentrer dans un cadre. Alors, toute ressemblance avec la situation post-Covid, hein, enfin post-confinement, évidemment, n'est pas fortuite. C'est la demande des gens aujourd'hui. Est-ce qu'on peut me respecter, moi, dans ma façon de vivre, dans mes attentes? Et si on me respecte, je vais donner le meilleur de moi-même. Alors, si, moi, je peux me permettre de...
Bien sûr.
Parce que c'est super important. Si tout le monde fait ça, ça s'appelle le chaos. Et donc, évidemment, c'est une connerie que je fasse ça si tout le monde le fait. Mais c'est là où aussi, il faut être honnête. Il y a combien de personnes comme lui? Très peu, en fait. Donc, est-ce que c'est gênant qu'il y ait quelques personnes qui fassent ça?
Là où ça pose question, parce que tu parlais de favoritisme, et le favoritisme d'un côté, c'est du coup perçu, ressenti comme une injustice pour d'autres.
Oui.
Et donc, c'est comment tu expliques que tu crées des règles et que seulement pour certains, tu décides... Donc, ça demande une explication permanente.
Exactement. Dont je n'ai jamais été avare. J'ai toujours été disponible pour expliquer pourquoi. Et je pense que c'est une des... Honnêtement, je pense que c'est un des éléments du succès de Talentsoft, c'est notre transparence. Notre en permanence, expliquer ce qu'il y a derrière. Et en réalité, le petit bémol dans ce que tu dis, c'est que ce n'était pas la personne que je favorisais. C'était l'apport. Et ce que je disais, c'est que les gens qui apportent autant... En l'occurrence, lui ne voulait pas d'argent en plus. Il voulait juste qu'on le laisse un peu faire son intéressant quelque part, vivre à son rythme, parce que c'était une posture. Et à la fin, tout le monde le savait que c'était une posture. Ben moi, je crois que quelqu'un qui apporte autant, il a le droit d'avoir cette posture-là et de dire aux gens, quand vous apporterez autant, je vous promets, ben, je respecterai ce qui est important pour vous. Et j'expliquerai aux autres que c'est important pour vous. Et donc, à la fin, ça devenait une blague. Quand on avait le manager de cette personne-là, tous les managers savaient, bon, ok, donc je vais lui foutre la paix. Et en fait, cette personne-là ne voulait qu'une chose, dire, à mon avis, on devrait faire ça et qu'on l'écoute. Et il se trouve que 90% du temps, il avait quand même raison.
Toujours sur cette notion de management, mais je pense que ça dépasse le simple management, mais c'est quand même dans le grand chapitre. Tu parles d'apprendre à décider dans l'incertitude. Avec une évocation au film Le Chant du Loup.
Ouais. Moi, ça, c'est un peu le drame français pour moi. C'est que dans les écoles, on t'apprend à faire le plan parfait. Mais en fait, en réalité, c'est injouable. Parce que tu ne fais jamais que le plan élaboré à partir des pauvres quelques éléments que tu as à ta disposition. Et quand tu vas chercher, et j'ai strictement rien contre, hein, mais McKinsey, BCG de ce monde, pour essayer d'avoir la vision la plus complexe possible à ta disposition, bah, souvent, le problème il est déjà passé. C'est trop long. Donc Le Chant du Loup d'Antonin Baudry avec François Civil qui est en gros l'oreille parfaite, doit écouter via les sonars si un sous-marin ennemi approche ou non, doit engager la vie de tout son équipage et la vie potentiellement du sous-marin en face parce qu'il doit décider est-ce qu'on envoie un missile sur le sous-marin ou pas. Alors en te laissant imaginer que si tu envoies un missile sur un sous-marin qui était en fait un sous-marin ami, c'est un petit peu embêtant. Et donc en général, il n'a jamais assez d'informations pour décider. C'est ce que montre le film. Et pour autant...
Il doit décider.
Et oui. Et ça s'appelle juste... Alors, qui plus est en 2022, alors on se parle, on manque tous d'infos. Et j'ai pris l'exemple mille fois. Mais c'était quand même la première fois de ma vie, entre mars et mai 2020, que j'entendais le Premier ministre, que j'entendais le Président de la République dire « Bon, bah, on ne sait pas trop ». Bah ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est arrivé à un niveau d'incertitude dans l'histoire de l'humanité où même les grands, les soi-disant grands de ce monde, ils savent plus trop et pour autant, il faut prendre des décisions. Donc, je crois que ça, c'est très important.
Le pire, c'est de ne pas décider.
C'est le pire. C'est vraiment, c'est ce que dit Zig Ziglar, c'est la pire décision, celle qu'on n'a pas prise. Donc en fait, la recette à la fin de la journée, c'est quoi? C'est un, alors c'est ce que disaient les accords Toltec, hein, faire au mieux. Donc tu sais que tu n'as pas plus que ça, qu'il faut faire avec ça. Alors tout ce qui est, ah oh oui, mais si j'avais plus, tu laisses tomber, t'as ça. Alors tu fais avec ça, point barre. Deuxièmement, la décision que tu vas prendre, il faudra que tu apprennes à vivre avec et que tu puisses dormir ce soir. Donc quoi que tu décides, est-ce que tu penses que c'est la meilleure décision que tu auras prise ce soir en ton âme et conscience compte tenu des informations qui étaient les tiennes? Et si tu t'es trompé, ben il faudra apprendre et ajuster. Mais la paralysie face à « oui, mais je ne suis pas sûr », mon avis, ça, c'est ce qui coule 90% des boîtes. Hein.
Il y avait aussi ne présume pas, non, je crois, dans les accords.
Oui, tout à fait. Alors, ne fais pas de supposition.
Ouais.
Alors, en l'occurrence, tu vois, c'est rigolo parce que, en l'occurrence, quand tu...
Tu n'as pas le choix de supposer.
Non, tu dois faire des hypothèses. Ce qui est dit dans les accords Toltec, c'est sur les gens. N'imagine pas ce que les gens pensent, ce que les gens veulent, demande-leur. Et par contre,
c'est plus simple.
C'est plus simple, mais a priori pas, parce qu'on le fait assez rarement quand même. Mais on préfère largement imaginer. Mais voilà, pour ce qui est de la prise de décision, là-dessus, on n'était pas trop mauvais, nous. En fait, on était très pragmatique. On ne sortait pas, pour le coup, de ces filières-là. Et donc, moi qui fais la fac et qui suis un autodidacte hein, de tout, moi, finalement, faire avec les moyens du bord, c'est un peu story of my life. Donc là-dessus, on n'était pas trop mauvais, quoi.
Parlons croissance, une période que vous avez vécue et peut-être sur ce sujet, première partie de chapitre, focus. Ouais. C'est que ça devait être un mot important.
Ah ouais, parce que, bon, là, d'ailleurs, si j'ai insisté comme ça, c'est parce que j'ai des regrets. Je pense que, en fait, on focus jamais assez. La question, c'est que tu démarres, et tu sais à peu près où tu veux aller. Après, tu vas quand même évoluer parce que tu vas avoir des informations nouvelles, des opportunités nouvelles, tu vas changer. Donc, on revient sur tout ce qu'on s'est dit. Les priorités peuvent changer, ainsi de suite. Pour autant, typiquement sur le choix des clients, quand tu te dis, bon, j'ai pas ce module-là, le concurrent vient de gagner sur celui-là. Bon, allez, je vais le faire. OK, alors tu viens de te faire un deuxième concurrent. Puis après, tu te dis, alors je vais faire un troisième module, puis un quatrième module. Et puis tiens, je vais me mettre sur ce marché-là parce que j'y suis pas. Et en fait, à force de te dire, j'ai besoin de croître, donc il faut que j'aille. Les relais de croissance, il n'y a pas 50 choses. Hein. C'est des nouveaux pays ou des nouveaux produits ou services. À un moment donné, là, c'est pareil, il n'y a pas un milliard de solutions. Donc, est-ce que tu vas vraiment croître plus rapidement en te mettant sur trois marchés supplémentaires, en te concentrant sur le tien, en vendant tes produits plus chers? Et nous, à un moment donné, on a couru un peu trop de lièvre, donc ton énergie est diluée.
Et la vision pour les équipes aussi, peut-être parfois.
Oui, pas toujours compréhensible, pour les clients aussi. Et pour autant, j'ai vraiment des cas où on a merdé et des cas où ça nous a sauvés. Je prends un des cas qui nous a sauvés, c'est en 2017.
C'est vraiment, moi je voulais sur les cas où vous avez merdé, c'est toujours plus.
le cas où on a merdé, je vais commencer par ça si tu veux. À un moment donné, je vois le Candidate Relationship Management arriver en 2013. Je me dis, mais en fait, les process, on est sur les interactions, les talents. Je me disais, typiquement, la plupart des gens que je recrute, c'est pas par les annonces, c'est on les chasse. Donc, on va faire un outil là-dessus. Aujourd'hui, c'est Candidate Relationship Management, c'est d'une banalité absolue. En 2013, ça l'est pas. Et donc, on prend les meilleurs, parmi les meilleurs de la boîte, on fait cet outil, mais c'est un peu tôt. Et du coup, on dilue notre énergie sur nos activités cœur. Et donc on va un peu moins vite sur la roadmap, on a pris des éléments des talents et ainsi de suite, mais de l'autre côté on grossit, donc on ralentit, donc on a plus de mal à innover rapidement et ça devient notre vitrine. Et donc évidemment, parce que la difficulté c'est quand c'est ni blanc ni noir.
Ouais, c'est une merde qui se rattrape bien quand même.
Oui, mais tu vois, tout le monde ne sera pas d'accord,
ouais,
sur l'histoire de Talentsoft. Certains diront c'était la danseuse d'Alex, on s'est planté là-dessus, et d'autres diront c'est ce qu'on a fait de mieux. Et en fait, c'est très dur de juger par exemple, le relais de croissance que tu as choisi, c'est ce qui te fout dans la tombe parce que tu viens de te mettre un nouveau marché, des nouveaux concurrents, des nouvelles pratiques, et en fait, tu ne pouvais pas, tu n'avais pas les reins et les moyens de faire ça, ou c'est ce qui t'a sauvé en 2017, bon, c'était le cas plutôt vertueux, Workday change le game, le Gartner change ses cadrans, ainsi de suite, et on doit se mettre sur un pan qui n'était pas du tout le nôtre, avec la moitié de la boîte qui dit « on fait une connerie », c'est pas nous, c'est pas notre ADN, et nous plutôt à la direction qui disons « mais si on le fait pas, il n'y aura plus de produit du tout, parce que ça devient le point d'entrée. Il se trouve qu'on a eu raison et que si on ne l'avait pas fait, on n'aurait de toute façon plus les appels d'offres sur les produits initiaux. Maintenant, je te raconte l'histoire après. Quand c'est pendant, bah, je reviens sur le champ du loup. Est-ce que tu mets ta boîte dans un pied dans la tombe ou est-ce que... Et c'est là où on revient sur le mix de prendre des données, écouter tout le monde, prendre beaucoup de données, mais aussi suivre ton intuition.
Et pas changer d'avis par contre à chaque fois qu'on entend quelque chose de différent.
Ça, tu peux pas.
Il y a toujours sur cette notion... C'est intéressant que tu le mettes là, sur cette notion de croissance où tu parles de recruter des gens meilleurs que soi. Alors ça, on l'a entendu 100 fois.
Ouais.
Là, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que je l'ai surligné, c'est recrute des gens supposés meilleurs que toi.
Ouais.
Ça interroge la notion d'imposteur de l'entrepreneur.
Et alors ça, là-dessus, on s'est bien vautré. Parce que, en fait, à moins d'être con...
C'est-à-dire que vous n'êtes jamais senti imposteur ou que...
Souvent senti imposteur et on s'est beaucoup vautré sur les gens qu'on a été chercher pour une raison simple. À moins d'avoir vraiment un pet au casque et d'être un summum de mégalo, quand tu crées une boîte à 3 et que tu te retrouves à la tête d'un truc de 300 personnes peu de temps après, te dire « Bon, bah, je suis probablement pas la bonne personne pour gérer tout ça, il faut que j'aille chercher des gens qui aient déjà fait », c'est quand même plutôt un réflexe sain. La question, c'est quand tu te mets en 2007 sur du SaaS, RH, B2B,
qui les gens qui ont fait ça, il n'y en a pas 10 000.
Qui a fait ? Tu vas chercher Lyoto, mais c'est pas du SaaS. Tu vas chercher Dassault, mais ils sont pas en SaaS. Tu vas chercher Salesforce, alors ils sont à fond en SaaS, mais ils connaissent rien à la RH. Tu vas chercher qui ? Et puis c'est pas, je te rappelle, il y a pas Station F et compagnie. Hein. Donc tu sais pas trop. Mais tu te dis, moi je suis probablement pas capé pour ça. Et donc là devient le concours de jonglerie des gens qui viennent t'expliquer que t'es un crétin et que eux ils vont te sauver. Et vu que toi tu doutes, ça peut marcher. Et donc là. Moi, je dis, c'est très sain, et je l'ai encore entendu, je ne citerai pas la boîte, mais j'ai parlé il y a moins de 3 jours avec un entrepreneur qui a eu l'intelligence, maintenant il est N-3 de sa boîte, de sa propre boîte, hein. Mais il a eu l'intelligence d'aller chercher des gens en disant « Mais moi, je ne saurais pas manager, je n'ai pas d'expérience, je vais planter ma boîte. » Et toi et moi, on connaît tous des startups magnifiques qui sont à l'intérieur, un champ de ruines, parce que t'es pas parce que tu as une bonne idée que tu es un bon manager, mais de l'autre côté, il faut faire ultra gaffe aux gens qui voient dans ta boîte une opportunité d'avoir un super job, d'être au bon endroit et qui vont te rabaisser pour te montrer que tu as besoin d'eux. Et donc, à un moment donné, il faut quand même avoir confiance en soi et de se dire qu'il y a peut-être des raisons pour lesquelles on a réussi et dans le même temps, te dire bon, qu'est-ce qui me manque ? Et je ne vais pas aller chercher des sauveurs, je vais aller chercher des compétences manquantes de gens plutôt humbles qui viennent d'abord en disant « Bon, moi non plus, je n'ai pas fait, mais j'ai envie d'essayer avec toi. » Et c'est là où on a fait aussi de très bons choix parfois.
Pour augmenter la mémorisation des auditeurs sur ce sujet-là, l'exemple, c'est celui de Genesis.
Ouais, Genesis, génial. Donc, groupe de rock progressif qu'on connaît, Peter Gabriel à la tête. Il décide de faire une carrière solo. Donc lui, contrairement à Thom Yorke, il ne reviendra pas. Et donc, Genesis, elle se met en quête d'un chanteur. De là, il commence les castings. Et il se trouve que c'est Phil Collins, le batteur, qui, pour démontrer un peu l'intention de ce qu'il recherche, chante un peu des morceaux de Genesis au candidat. Et puis après, le candidat s'essaye à ça. Et puis, il cherche, mais vraiment, il voit 300 personnes. Il ne trouve pas. Et leur vient l'idée de génie. Bah, en fait, Phil, puisque c'est toi qui chantes et qui montres à tout le monde et qu'on ne trouve pas aussi bien, bah, peut-être que ça pourrait être toi qui chantes. Et en fait, il explique qu'au début, vraiment, le syndrome de l'imposteur, il en a souffert à mort. En plus des batteurs-chanteurs, il y en a assez peu et tout. Et puis, bah, Genesis, finalement, ils ont vendu 1000 fois plus de disques quand ça a été Phil Collins que Peter Gabriel.
Chapitre 8. Les levées de fonds.
Ah.
Je dis très sérieusement, mais c'est parfois une quête, parfois un graal pour certains, parfois pas forcément aussi une nécessité pour tous, et c'est bien de le dire, mais parfois c'est nécessaire à la croissance de la boîte. Et donc tu racontes cette aventure à travers des sortes de grandes règles, à commencer par la suivante, joue l'homme.
Oui, alors joue
pas
l'homme
toi.
Avec un grand H, hein,
oui.
Et désolé.
Joue l'humain. On aurait pu le dire.
C'est juste que cette expression « joue l'homme » existe au poker. Je suis joueur de poker et elle est citée par Harvey Specter dans Suits, donc une série assez sympa, qui est avocat et qui dit de toute façon que ce soit au poker ou en procès, je ne regarde pas le dossier, je ne regarde pas les cartes, je regarde les gens en face de moi. Et ça, c'est ultra important. On a Goldman Sachs au capital en 2015 qui rentre. Goldman Sachs, il y a eu Margin Call, il y a eu le documentaire Canal. Donc à ce moment-là, on n'en a pas une image hallucinante. Hein. Et c'est probablement le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont une certaine image de Goldman Sachs. Mais on n'a pas Goldman Sachs à table. On a trois personnes. Et en fait, les marques, ça n'existe pas. Capgemini, c'est ni bien ni pas bien. Vous adorez certains chefs de projet, vous n'en aimerez pas d'autres. On connaît tous ça. Vous aimez travailler avec des gens, ils partent de la boîte, vous n'aimez plus la boîte. Et ils vont ailleurs.
Et tu poursuis avec eux.
Exactement.
Ailleurs.
Donc en fait, ce qui compte, c'est le lien qu'on va tisser avec les investisseurs. Et évidemment, il y a des cultures de boîtes. Donc il y a des boîtes vers lesquelles on tendra plus naturellement que d'autres. Mais à la fin de la journée, on parle, des gens parlent à des gens. Et que ce soit des actionnaires qui te donnent 500 millions, des investisseurs, enfin qui deviennent de facto actionnaires, ou que ce soit des clients, ça revient toujours à la même dynamique, ça reste des gens, même s'ils te confient des centaines de millions. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, et il ne faut pas oublier non plus qu'à la fin de la journée, dans tes boards, ils se passeront bien ou ils se passeront mal, pas uniquement à cause de tes chiffres, mais à cause des relations.
Oui, parce que c'est, on le dit pour un associé, mais c'est la même chose, c'est un mariage.
Il n'y a que
avec des
relations
intérêts
et des rôles différents, c'est un film. Des investisseurs, des actionnaires, des associés, des clients, des fournisseurs, mais c'est des gens. Et d'ailleurs, je déconseille fortement à nos auditeurs de typer leurs relations et d'être d'une manière avec un type de rôle, d'une autre manière avec un deuxième rôle et une troisième manière. Ça fait des girouettes, on ne comprend pas qui ils sont, on ne comprend pas ce qu'ils font, et à la fin de la journée, ils ne savent plus qui ils sont non plus d'ailleurs. Moi, je conseille d'être toujours pareil avec tout le monde. Simplement, il y a des codes, et c'est comme quand on voyage, c'est les mêmes intentions, mais avec des langues différentes. Il faut parler des langues différentes, mais il ne faut pas commencer à raconter autre chose.
Tu conclus, alors évidemment, je ramène au livre, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de sujets qui sont abordés dedans, mais le temps nous est compté. Mais sur cette partie-là, tu l'as conclu en rappelant « Ne vends pas ton âme au diable ». Donc là, on part avec Al Pacino, Keanu Reeves.
Ouais, le film de Taylor Hackford de 1997, de ce jeune arriviste qui travaille dans un cabinet d'avocat qui est tenu par Al Pacino, qui se trouve être le diable, d'où l'utilisation de ce film.
Racontez la fin, c'est pas gênant,
oh,
ça.
Mais
en
non,
même temps, si en 2023,
diable,
vous ne l'avez pas vu...
Puis vous avez eu 25 ans pour le voir, tant pis pour vous. Vous le verrez pas maintenant si vous ne l'avez pas déjà vu.
Mais dans Kaiser Soze, c'est Kenyo...
Ah, non, là, c'est autre chose. Tu prends ta responsabilité.
Ok.
Donc en fait, le point là-dessus, c'est de dire quoi? On voulait gagner de l'argent, hein. Je veux dire, moi je venais d'une famille qu'on n'avait pas, je fais une boîte dans le Next 40, j'ai envie de gagner de l'argent. Hein. Je veux dire, je vais pas mentir là-dessus. Par contre, à quel prix? et en fait, il ne faut pas être prêt à gagner de l'argent à tout prix.
C'est quoi les prix?
Le prix, il est simple. Hein. On a fait notre parcours avec deux éléments clés. Vouloir faire une alternative européenne aux Américains. C'est pas que je sois contre les Américains, c'est qu'on voulait offrir une autre manière d'aborder la RH. Et on a bâti vraiment Talentsoft sur l'énergie et le cœur des gens. Donc vendre son âme au diable, ça veut dire deux choses. Au moment où tu vas toucher ton chèque, te dire « après moi le déluge » et te contrefoutre de ce qui peut se passer pour les gens. Donc là, si les gens sont capables de faire ça, moi, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on se voyait pas se regarder le matin devant notre classe en disant « on a bien eu tout le monde. Hein. Par contre, on a touché plein de fric. »
On vient aux accords Toltec.
Voilà. Ouais. Donc ça, on ne voyait pas ça. Deuxième chose, pas facile vis-à-vis de notre communauté de clients de tomber dans les bras d'Américains quand on a fait notre carrière sur le fait d'offrir une alternative aux Américains. Donc, on a vendu à un industriel français du logiciel. Évidemment, les esprits malins n'auront pas manqué de remarquer que cet investisseur est backupé par des fonds américains, comme nous l'étions d'ailleurs. Mais s'il y avait possibilité de faire avec des fonds français ou européens, on l'aurait peut-être fait. Ça n'existe pas à date. Ce qui est bien le problème de Le Maire, du patron d'Euronext, et ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment-là, les gens restent en France. Vous avez les bureaux en France. Vous avez une manière de travailler qui est propre, pour le coup, à la France, à l'Europe. On n'a pas trahi notre promesse. Donc, ça, c'est ça, pas vendre son âme au diable. Après, il se passe ce qui se passe, avec des bonnes et des mauvaises choses, on n'est pas responsable de tout. Par contre, on est responsable de ses intentions, ça c'est sûr, et on vivra jusqu'à la fin de nos jours avec nos intentions. Donc, vaut mieux être assez en paix avec soi-même.
Dans cette relation entrepreneur, investisseur, fonds, parfois ça se passe très mal, du fait de l'un ou du fait des autres.
Oui. Bah, écoute, c'est quasiment la synthèse de tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que si tu ne vois dans l'investisseur que le pognon, tu te dis, bon, ben, de toute façon, je leur raconte ce qu'ils ont envie d'entendre, je prends l'argent, puis on verra après. Si ça se passe mal, tu ne peux pas dire que tu y es pour rien. Et puis de l'autre côté, c'est tout aussi vrai. Ils veulent avoir une boîte dans leur portfolio, ils leur racontent n'importe quoi, et après, c'est une catastrophe. Donc on revient à quoi ? D'où le fameux joue l'homme. Ben, l'argent, c'est une chose, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment regarder la relation. Et très sincèrement, quand on est capable de faire une boîte qui va au Next 40, on est quand même capable de faire un peu ses devoirs et d'aller parler aux gens des deux côtés. Hein.
Dans les portfolios. Bah,
dans les portfolios. Et vraiment, c'est aussi vrai pour les investisseurs que les entrepreneurs. Tu vas parler aux gens et tu vas voir est-ce que c'est vrai.
Ne suppose pas de demande.
Et il faut vraiment ne pas hésiter à aller voir, demander des recommandations. Et puis, essayer surtout, de voir si la trajectoire de l'entreprise semble en accord avec les dits. Et si tu te rends compte qu'une boîte, elle te dit quelque chose, mais que tout indique que sa trajectoire va ailleurs, bah, faut pas faire confiance. Et là, encore une fois, moi, je connais que le travail. Hein. Faut bosser, quoi. Si tu veux pas bosser, tu veux pas faire tes devoirs et que tu te fais avoir, honnêtement, tant pis, quoi.
On aurait pu conclure là-dessus, parce que c'est le final. Mais le final, c'est aussi le chapitre 9. C'est celui dans lequel tu veux raconter la session de Talentsoft. Ce que je te propose, c'est de laisser un peu de suspense pour nos auditeurs et qu'on te retrouve dans notre autre podcast qui s'adresse évidemment à tous ceux qui s'intéressent aux entrepreneurs et aux sessions d'entreprise. Ce sera Cash Out et ce sera en musique. T'as déjà choisi tes musiques ?
Pas encore, je vais faire ça pendant le break de Noël.
Je présume qu'il n'y aura ni Jean-Louis Aubert, ni Philippe Lavie.
J'adore Jean-Louis
mais
Aubert.
Mais peut-être M, que tu évoques aussi dans cet ouvrage. En tout cas, je crois que le premier, enfin je crois pas, je suis même certain, la première fois qu'on t'a eu dans 40 nuances de Next, c'était en plein confinement, c'était à distance. Et même à distance, on était ressorti du studio avec Olivier en disant tu le connais ou tu le connais pas, mais il y a un truc, c'est qu'à la fin de ces deux heures, on avait envie de t'embarquer, d'aller boire un verre, refaire le monde, ce qui n'est pas toujours évident à distance. Donc, je te propose qu'on conclue, qu'on aille boire un verre et qu'on aille refaire le monde. Startup Story, le guide pop culture de l'entrepreneuriat, Alexandre Pachulski. On se retrouve à ton prochain ouvrage.
Merci beaucoup, Thomas.
Ça aurait pu être la conclusion parfaite. Je trouvais que ça finissait bien, mais en fait, je me rends compte qu'il y a justement, dans la première fois on t'a fait venir, une rubrique qui n'existait pas et que je te propose de dérouler ensemble. On a pris un jeune premier qui nous fait les voix off et qui va te lancer.
Parce que c'est notre projet.
Tu as les clés de notre beau pays et la main sur tout. Qu'est-ce que t'en fais ?
Sûrement un paquet de conneries, a priori, vu que j'ai pas décidé.
Mais comme ça, après, tu pourras faire un ouvrage.
Voilà, c'est ça. L'effet lié.
Mes conneries pour la France.
Bon, ce que je ferais finalement, ce serait peut-être pas extrêmement différent de ce dont on vient de parler. C'est d'abord, la première chose que je ferais, c'est que je ferais exploser la notion de langue de bois en politique. Parce que je crois qu'en fait, tout le monde perd avec ça. Vraiment, tout le monde perd. Donc, je serais, comme on l'a dit, sur la transparence, à expliquer un peu ma vision des choses. Fausse, évidemment, forcément. Partielle, parcellaire, tout ce que tu veux. Mais, je dirais, voilà, moi, comment je vois les choses. J'essaierai du coup, d'écouter au maximum. Donc, tout ce qui est convention citoyenne et autres, je trouve que c'est positif. J'essaierai vraiment, voilà, d'écouter beaucoup et d'être très transparent. Et puis, je ferai une chose très simple qui me manque en tant que citoyen. C'est de fixer un cap. Je serais élu, a priori, vu qu'on n'est pas en dictature. Donc, je fixerai un cap très clair en disant, ben moi, le monde dans lequel j'ai envie de vivre, le pays dans lequel j'ai envie de vivre, c'est celui-là. Voilà comment j'ai envie que les gens vivent ensemble. Voilà ce que ça veut dire pour moi que d'être heureux ou épanoui. Donc, voilà ce que je vais proposer pour qu'on atteigne ça. Et si on n'a pas la même vision de la société et de ce que c'est que le bonheur pour vous, ben ne votez pas pour moi, en fait. Donc, je pense que si ça partait de là, d'une sorte de volonté humble quasi candide de dire « moi j'ai envie d'aller par là et vous ?» Je pense que peut-être les choses iraient mieux. Parce que ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que moi en tant que citoyen, je ne sais pas bien quel est le projet. Et c'est ce qui me manque le plus, indépendamment des personnes au pouvoir. Ça fait, je ne sais pas si je n'ai jamais eu le projet. Donc j'aimerais juste refixer un projet qui donne envie, comme aux gens de aller au travail le lundi matin, bah là ce serait de se dire, je comprends ce que ça veut dire d'être français et je crois que ça pourrait dépasser justement tout ce qu'on peut entendre sur les conneries des grands emplacements et compagnie. Bah pour que les gens vivent ensemble, il faut peut-être leur proposer quelque chose.
Eh bien moi, pour le coup, je te propose que celle-ci, ce soit la vraie conclusion de notre échange. On se retrouve encore une fois au prochain ouvrage après Startup Story, le guide pop culture de l'entrepreneuriat par le cofondateur de Talentsoft. Merci.
Merci Thomas.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.